Les Misérables. Troisième partie, Marius. Livre premier, Paris, étudié dans son atome. Chapitre 1, Parvulus. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau. L'enfant s'appelle le gamin. Accouplez ces deux idées qui contiennent l'une toute la fournaise, l'autre toute l'aurore. Choquez ces étincelles, Paris, l'enfance. Il en jaillit un petit être, « au Muncio », dirait Plaute. Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il n'a pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il est comme les mouches du ciel qui n'ont rien de tout cela. Il a de 7 à 13 ans, vit par bandes, bat le pavé, loge en plein air, porte un vieux pantalon de son père qui lui descend plus bas que les talons, un vieux chapeau de quelque autre père qui lui descend plus bas que les oreilles, une seule bretelle en lisière jaune, court, guette, quête, perletant, calotte des pipes, jure comme un damné, hante le cabaret, connaît des voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes, et n'a rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme une perle, l'innocence. Et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent. Si l'on demandait à l'énorme ville « Qu'est-ce que c'est que cela ?» elle répondrait « C'est mon petit !» Chapitre 2. Quelques-uns de ces signes particuliers. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. N'exagérons point. Ce chérubin du ruisseau a quelquefois une chemise, mais alors il n'en a qu'une. Il a quelquefois des souliers, mais alors ils n'ont point de semelles. Il a quelquefois un logis, et il l'aime, car il y trouve sa mère. Mais il préfère la rue, parce qu'il y trouve la liberté. Il a ses jeux à lui, ses malices à lui, dont la haine des bourgeois fait le fond. Ses métaphores à lui, être mort. Cela s'appelle manger des pissenlits par la racine. Ses métiers à lui, amener des fiacres, baisser les marchepieds des voitures, établir des péages d'un côté de la rue à l'autre, dans les grosses pluies, ce qu'il appelle faire des ponts des arts. Crier les discours prononcés par l'autorité en faveur du peuple français, gratter l'entre-deux des pavés. Il a sa monnaie à lui, qui se compose de tous les petits morceaux de cuivre façonnés qu'on peut trouver sur la voie publique. Cette curieuse monnaie, qui prend le nom de loque, a un cours invariable et fort bien réglé dans cette petite bohème d'enfant. Enfin, il a sa faune à lui, qu'il observe studieusement dans des coins. La bête à bon Dieu, le puceron tête de mort, le faucheux, le diable, insecte noir qui menace en tordant sa queue armée de deux cornes. Il a son monstre fabuleux qui a des écailles sous le ventre et qui n'est pas un lézard, qui a des pustules sur le dos et qui n'est pas un crapaud, qui habite les trous des vieux fours à chaud et des puisards desséchés, noir, velu, visqueux, rampant, tantôt lent, tantôt rapide, qui ne crie pas, mais qui regarde, et qui est si terrible que personne ne l'a jamais vu. Il nomme ce monstre le sourd. Chercher des sourds dans les pierres, c'est un plaisir du genre redoutable. Autre plaisir, lever brusquement un pavé et voir des cloportes. Chaque région de Paris est célèbre par les trouvailles intéressantes qu'on peut y faire. Il y a des perce-oreilles dans les chantiers des Ursulines, il y a des mille-pieds au Panthéon, il y a des têtards dans les fossés du Champ de Mars. Quant à des mots, cet enfant en a comme Talleyrand. Il n'est pas moins cynique, mais il est plus honnête. Il est doué d'on ne sait quelle jovialité imprévue. Il ahurit le boutiquier de son fou rire. Sa gamme va gaillardement de la haute comédie à la farce. Un enterrement passe. Parmi ceux qui accompagnent le mort, il y a un médecin. « Tiens !» s'écrie un gamin. « Depuis quand les médecins reportent-ils leur ouvrage ?» Un autre est dans une foule. Un homme grave, orné de lunettes et de breloques, se retourne indigné. « Vaut rien ! Tu viens de prendre la taille à ma femme !»«
Moi, monsieur ? Fouillez-moi !»
Chapitre 3. Il est agréable. Le soir, grâce à quelques sous qu'il trouve toujours moyen de se procurer, Lomuncio entre à un théâtre. En franchissant ce seuil magique, il se transfigure. Il était le gamin, il devient le titi. Les théâtres sont des espèces de vaisseaux retournés qui ont la cale en haut. C'est dans cette cale que le titi s'entasse. Le titi est au gamin ce que la phalène est à la larve. Le même être, envolé et planant. Il suffit qu'il soit là, avec son rayonnement de bonheur, avec sa puissance d'enthousiasme et de joie, avec son battement de main qui ressemble à un battement d'aile, pour que cette cale étroite, fétide, obscure, sordide, malsaine, hideuse, abominable, se nomme le paradis. Donnez à un être l'inutile et ôtez-lui le nécessaire. Vous aurez le gamin. Le gamin n'est pas sans quelque intuition littéraire. Sa tendance, nous le disons avec la quantité de regret qui convient, ne serait point le goût classique. Il est, de sa nature, peu académique. Ainsi, pour donner un exemple, la popularité de Mademoiselle Mars dans ce petit public d'enfants orageux était assaisonnée d'une pointe d'ironie. Le gamin l'appelait Mademoiselle Muche. Cet être braille, raille, gouaille, bataille, a des chiffons comme un bambin et des guenilles comme un philosophe. Pêche dans l'égout, chasse dans le cloaque, extrait la gaieté de l'immondice, fouaille de sa verve les carrefours, ricane et mord, siffle et chante, acclame et engueule, tempère Alléluia par ma tenture de lurette, psalmodie tous les rythmes depuis le De Profundis jusqu'à la Chianli, trouve sans chercher, sait ce qu'il ignore, est spartiate jusqu'à la filouterie, est fou jusqu'à la sagesse, est lyrique jusqu'à l'ordure, s'accroupirait sur l'Olympe, se vautre dans le fumier et en sort couvert d'étoiles. Le gamin de Paris, c'est Rabelais, petit. Il n'est pas content de sa culotte s'il n'y a point de gousset de montre. Il s'étonne peu, s'effraie encore moins, chansonne les superstitions, dégonfle les exagérations, blague les mystères, tire la langue aux revenants, dépoétise les échasses, introduit la caricature dans les grossissements épiques. Ce n'est pas qu'il est prosaïque, loin de là, mais il remplace la vision solennelle par la fantasmagorie farce. Si Adam Astor lui apparaissait, le gamin dirait « Tiens, croque-mitaine !» Chapitre 4. Il peut être utile. Paris commence au badaud et finit au gamin, deux êtres dont aucune autre ville n'est capable. L'acceptation passive qui se satisfait de regarder et l'initiative inépuisable, Prudhomme et Fouillou. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Toute la monarchie est dans le badaud. Toute l'anarchie est dans le gamin. Ce pâle enfant des faubourgs de Paris vit et se développe, se noue et se dénoue dans la souffrance, en présence des réalités sociales et des choses humaines, témoin pensif. Il se croit lui-même insouciant, il ne l'est pas. Il regarde, prêt à rire, prêt à autre chose aussi. qui que vous soyez qui vous nommez préjugé, abus, ignominie, oppression, iniquité, despotisme, injustice, fanatisme, tyrannie. Prenez garde au gamin béant. Ce petit grandira. De quelle argile est-il fait ? De la première fange venue. Une poignée de boue, un souffle, et voilà Adam. Il suffit qu'un dieu passe. Un dieu a toujours passé sur le gamin. La fortune travaille à ce petit être. Par ce mot, la fortune, nous entendons un peu l'aventure. Ce pygmée pétrit à même dans la grosse terre commune, ignorant, illettré, ahuri, vulgaire, populacier. Sera-ce un ionien ou un béotien ? Attendez, Kuritrota, l'esprit de Paris, ce démon qui crée les enfants du hasard et les hommes du destin, au rebours du potier latin, fait de la cruche une amphore. Chapitre 5. Ses frontières. Le gamin aime la ville. Il aime aussi la solitude, ayant du sage en lui. Urbis amator, comme Fuscus. Ruris amator, comme Flaccus. Errer songeant, c'est-à-dire flâner, est un bon emploi du temps pour le philosophe, particulièrement dans cette espèce de campagne un peu bâtarde, assez laide, mais bizarre et composée de deux natures qui entourent certaines grandes villes, notamment Paris. Observer la banlieue, c'est observer l'amphibie. Fin des arbres, commencement des toits. Fin de l'herbe, commencement du pavé. Fin des sillons, commencement des boutiques. Fin des ornières, commencement des passions. Fin du murmure divin, commencement de la rumeur humaine. De là, un intérêt extraordinaire. De là, dans ces lieux peu attrayants et marqués à jamais par le passant de l'épithète « triste », les promenades, en apparence sans but, du songeur. Celui qui écrit ces lignes a été longtemps rôdeur de barrières à Paris, et c'est pour lui une source de souvenirs profonds. Ce gazon ras, ces sentiers pierreux, cette craie, ces marnes, ces plâtres, ces âpres monotonies des friches et des jachères, les plans de primeurs, des maraîchers aperçus tout à coup dans un fond, ce mélange du sauvage et du bourgeois, ces vastes recoins déserts où les tambours de la garnison tiennent bruyamment école et font une sorte de bégaiement de la bataille, ces thébaïdes le jour, coupe-gorge la nuit, le moulin dégingandé qui tourne au vent, les roues d'extraction des carrières, les guinguettes au coin des cimetières, le charme mystérieux des grands murs sombres, coupant carrément d'immenses terrains vagues, inondés de soleil et pleins de papillons. Tout cela l'attirait. Presque personne sur la terre ne connaît ces lieux singuliers. La glacière, la cunette, le hideux mur de Grenelle, tigré de Bâle, le mont Parnasse, la fosse aux loups, les aubiers sur la berge de la Marne, Montsouris, la tombe Issoire, la pierre plate de Châtillon, où il y a une vieille carrière épuisée qui ne sert plus qu'à faire pousser des champignons, et que ferme à fleur de terre une trappe en planches pourries. La campagne de Rome est une idée, la banlieue de Paris en est une autre. Ne voir dans ce que nous offre un horizon rien que des champs, des maisons ou des arbres, c'est rester à la surface. Tous les aspects des choses sont des pensées de Dieu. Le lieu où une plaine fait sa jonction avec une ville est toujours empreint d'on ne sait quelle mélancolie pénétrante. La nature et l'humanité vous y parlent à la fois. Les originalités locales y apparaissent. Quiconque a erré comme nous dans ces solitudes contiguës à nos faubourgs, qu'on pourrait nommer les limbes de Paris, y a entrevu ça et là, à l'endroit le plus abandonné, au moment le plus inattendu, derrière une haie maigre ou dans l'angle d'un mur lugubre, des enfants, groupés tumultueusement, livides, boueux, poudreux, dépenaillés, hérissés, qui jouent à la pigoche couronnée de bleuets. Ce sont tous les petits échappés des familles pauvres. Le boulevard extérieur est leur milieu respirable. La banlieue leur appartient. Ils y font une éternelle école buissonnière. Ils y chantent ingénument leur répertoire de chansons malpropres. Ils sont là, ou pour mieux dire, ils existent là, loin de tout regard, dans la douce clarté de mai ou de juin, agenouillés autour d'un trou dans la terre, chassant des billes avec le pouce, se disputant des liards, irresponsables, envolés, lâchés, heureux. Et dès qu'ils vous aperçoivent, ils se souviennent qu'ils ont une industrie et qu'il leur faut gagner leur vie. Et ils vous offrent à vendre un vieux bas de laine plein de hannetons ou une touffe de lilas. Ces rencontres d'enfants étranges sont une des grâces charmantes et en même temps poignantes des environs de Paris. Quelquefois, dans ces tas de garçons, il y a des petites filles. Sont-ce leurs sœurs ? Presque jeunes filles, maigres, fiévreuses, gantées de hâle, marquées de taches de rousseur, coiffées d'épis de seigle et de coquelicots, gaies, hagardes, pieds nus. On en voit qui mangent des cerises dans les blés. Le soir, on les entend rire. Ces groupes, chaudement éclairés de la pleine lumière de midi ou entrevus dans le crépuscule, occupent longtemps le songeur. Et ses visions se mêlent à son rêve. Paris, centre, la banlieue, circonférence. Voilà pour ces enfants toute la terre. Jamais ils ne se hasardent au-delà. Ils ne peuvent pas plus sortir de l'atmosphère parisienne que les poissons ne peuvent sortir de l'eau. Pour eux, à 2 lieues des barrières, il n'y a plus rien. Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Ménilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, Issy, Vanvres, Sèvres, Puteaux, Neuilly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chatou, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Sec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse. C'est là que finit l'univers. Chapitre 5. Un peu d'histoire. À l'époque, d'ailleurs presque contemporaine où se passe l'action de ce livre, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, un sergent de ville à chaque coin de rue. Bien fait qu'il n'ait pas temps de discuter. Les enfants errants abondaient dans Paris. Les statistiques donnent une moyenne de 260 enfants sans asile, ramassés alors annuellement par les rondes de police dans les terrains non clos, dans les maisons en construction ou sous les arches des ponts. Un de ces nids, resté fameux, a produit les hirondelles du pont d'Arcole. C'est là, du reste, le plus désastreux des symptômes sociaux. Tous les crimes de l'homme commencent au vagabondage de l'enfant. Exceptons Paris, pourtant. Dans une mesure relative, et nonobstant le souvenir que nous venons de rappeler, l'exception est juste. Tandis que dans toute autre grande ville, un enfant vagabond est un homme perdu, tandis que presque partout, l'enfant livré à lui-même est en quelque sorte dévoué et abandonné à une sorte d'immersion fatale dans les vices publics qui dévorent en lui l'honnêteté et la conscience, le gamin de Paris, insistons-y, si frustre et si entamé à la surface, est intérieurement à peu près intact. Chose magnifique à constater et qui éclate dans la splendide probité de nos révolutions populaires. Une certaine incorruptibilité résulte de l'idée qui est dans l'air de Paris comme du sel qui est dans l'eau de l'océan. Respirer Paris, cela conserve l'âme. Ce que nous disons là n'ôte rien au serment de cœur dont on se sent pris chaque fois qu'on rencontre un de ces enfants, autour desquels il semble qu'on voit flotter les fils de la famille brisée. dans la civilisation actuelle, si incomplète encore, ce n'est point une chose très anormale que ces fractures de famille, se vidant dans l'ombre, ne sachant plus trop ce que leurs enfants sont devenus, et laissant tomber leurs entrailles sur la voie publique. De là des destinées obscures. Cela s'appelle, car cette chose triste a fait locution, être jeté sur le pavé de Paris. Soit dit en passant, ces abandons d'enfants n'étaient point découragés par l'ancienne monarchie. Un peu d'Égypte et de Bohême dans les basses régions accommodaient les hautes sphères et faisaient l'affaire des puissants. La haine de l'enseignement des enfants du peuple était un dogme. À quoi bon les demi-lumières ? Tel était le mot d'ordre. Or, l'enfant errant est le corollaire de l'enfant ignorant. D'ailleurs, la monarchie avait quelquefois besoin d'enfants. Et alors, elle écumait la rue. Sous Louis XIV, pour ne pas remonter plus haut, le roi voulait, avec raison, créer une flotte. L'idée était bonne. Mais voyons le moyen. Pas de flotte si, à côté du navire à voile, joué du vent, et pour le remorquer au besoin, on n'a pas le navire qui va où il veut, soit par la rame, soit par la vapeur. Les galères étaient alors à la marine ce que sont aujourd'hui les steamers. Il fallait donc des galères. Mais la galère ne se meut que par le galérien. Il fallait donc des galériens. Colbert faisait faire par les intendants de province et par les parlements le plus de forçats qu'il pouvait. La magistrature y mettait beaucoup de complaisance. Un homme gardait son chapeau sur sa tête devant une procession, attitude du guenote. On l'envoyait aux galères. On rencontrait un enfant dans la rue, pourvu qu'il eût 15 ans et qu'il ne sût où coucher, on l'envoyait aux galères. Grand règne, grand siècle. Sous Louis XV, les enfants disparaissaient dans Paris. La police les enlevait, on ne sait pour quel mystérieux emploi. On chuchotait avec épouvante de monstrueuses conjectures sur les bains de pourpre du roi. Barbier parle naïvement de ces choses. Il arrivait parfois que les exempts, à court d'enfants, en prenaient qu'il y avait des pères. Les pères désespérés couraient su aux exempts. En ce cas-là, le Parlement intervenait et faisait pendre. Qui ? Les exempts ? Non, les pères. Chapitre 7. Le gamin aurait sa place dans les classifications de l'Inde. La gaminerie parisienne est presque une caste. On pourrait dire « n'en est pas qui veut ». Ce mot « gamin » fut imprimé pour la première fois et arriva de la langue populaire dans la langue littéraire en 1834. C'est dans un opuscule intitulé « Claude Gueux » que ce mot fit son apparition. Le scandale fut vif. Le mot a passé. Les éléments qui constituent la considération des gamins entre eux sont très variés. Nous en avons connu et pratiqué un qui était fort respecté et fort admiré pour avoir vu tomber un homme du haut des tours de Notre-Dame. Un autre pour avoir réussi à pénétrer dans l'arrière-cour où étaient momentanément déposées les statues du Dôme des Invalides et leur avoir chipé du plomb. Un troisième pour avoir vu verser une diligence. Un autre encore, parce qu'il connaissait un soldat qui avait manqué crever un œil à un bourgeois. C'est ce qui explique cette exclamation d'un gamin parisien, épiphonème profond dont le vulgaire rit sans le comprendre. « Dieu de Dieu, ai-je du malheur ? Dire que je n'ai pas encore vu quelqu'un tomber d'un cinquième. » « Ai-je » se prononce « j'ai-ti ». « Cinquième » se prononce « cinquième ». Certes, c'est un beau mot de paysan que celui-ci. Père un tel, votre femme est morte de sa maladie. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé chercher de médecin ? Que voulez-vous, monsieur ? Nous autres pauvres gens, nous mourons nous-mêmes. Mais si toute la passivité narquoise du paysan est dans ce mot, toute l'anarchie libre-penseuse du mioche faubourien est à coup sûr dans cet autre. Un condamné à mort dans la charrette écoute son confesseur. L'enfant de Paris se récrie. Il parle à son calotin. Oh, le capon! Une certaine audace en matière religieuse rehausse le gamin. Être esprit fort est important. Assister aux exécutions constitue un devoir. On se montre la guillotine et l'on rit. On l'appelle de toutes sortes de petits noms. Fin de la soupe, grognon, la mer au bleu, au ciel, la dernière bouchée, etc., etc. Pour ne rien perdre de la chose, on escalade les murs, on se hisse au balcon, on monte aux arbres, on se suspend aux grilles, on s'accroche aux cheminées. Le gamin naît couvreur comme il naît marin. Un toit ne lui fait pas plus peur qu'un mât. Pas de fête qui vaille la grève. Samson et l'abbé Montès sont les vrais noms populaires. On eut le patient pour l'encourager. On l'admire quelquefois. Lassenaire, gamin, voyant l'affreux Dautin mourir gravement, a dit ce mot où il y a un avenir. J'en étais jaloux. Dans la gaminerie, on ne connaît pas Voltaire, mais on ne connaît pas Pavoine. On mêle dans la même légende les politiques aux assassins. On a les traditions du dernier vêtement de tous. On sait que Tolleron avait un bonnet de chauffeur, Avril une casquette de loutre, Louvel un chapeau rond, que le vieux de la porte était chauve et nu-tête, que Castin était tout rose et très joli, que Bory avait une barbiche romantique, que Jean-Martin avait gardé ses bretelles, que le Couffet et sa mère se querellaient. « Ne vous reprochez donc pas votre panier !» leur cria un gamin. Un autre, pour voir passer de Baquer, trop petit dans la foule, avise la lanterne du quai et y grimpe. Un gendarme, de station-là, fronce le sourcil. « Laissez-moi monter, monsieur le gendarme !» dit le gamin. Et pour attendrir l'autorité, il ajoute « Je ne tomberai pas !»« Je m'importe peu que tu tombes !» répond le gendarme. Dans la gaminerie, un accident mémorable est fort compté. On parvient au sommet de la considération s'il arrive qu'on se coupe très profondément jusqu'à l'os. Le poing n'est pas un médiocre élément de respect. Une des choses que le gamin dit le plus volontiers, c'est « Je suis joliment fort, va !» Être gaucher vous rend fort enviable. Loucher est une chose estimée. Chapitre 8. Où on lira un mot charmant du dernier roi. L'été, il se métamorphose en grenouille. Et le soir, à la nuit tombante, devant les ponts d'Austerlitz et d'Iéna, du haut des trains à charbon et des bateaux de blanchisseuses, il se précipite, tête baissée dans la Seine, et dans toutes les infractions possibles aux lois de la pudeur et de la police. Cependant, les sergents de ville veillent, et il en résulte une situation hautement dramatique qui a donné lieu, une fois, à un cri fraternel et mémorable. Ce cri, qui fut célèbre vers 1830, est un avertissement stratégique de gamin à gamin. Il se scande comme un vers d'Homère, avec une notation presque aussi inexprimable que la mélopée et le ziac des Panathénées. Et l'on y retrouve l'antique Évoé. Le voici. Ohé, Titi, ohé, y a de la grippe, y a de la cogne, prends tes ardes et va-t'en. Passe par l'égout. Quelquefois, ce moucheron, c'est ainsi qu'il se qualifie lui-même, sait lire. Quelquefois, il sait écrire. Toujours, il sait barbouiller. Il n'hésite pas à se donner, par on ne sait quel mystérieux enseignement mutuel, tous les talents qui peuvent être utiles à la chose publique. De 1815 à 1830, il imitait le cri du dindon. De 1830 à 1848, il griffonnait une poire sur les murailles. Un soir d'été, Louis-Philippe, rentrant à pied, en vit un, tout petit, haut comme cela, qui suait et se haussait pour charbonner une poire gigantesque sur un des piliers de la grille de Neuilly. le roi, avec cette bonhomie qui lui venait de Henri IV, aida le gamin, acheva la poire et donna un louis à l'enfant en lui disant « La poire est aussi là-dessus. » Le gamin aime le ourvari. Un certain état violent lui plaît. Il exècre les curés. Un jour, rue de l'université, un de ces jeunes drôles faisait un pied de nez à la porte cochère du numéro 69. « Pourquoi fais-tu cela à cette porte ?» lui demanda un passant. L'enfant répondit « Il y a là un curé !» C'est là, en effet, que demeure le nonce du pape. Cependant, quel que soit le voltairianisme du gamin, si l'occasion se présente d'être enfant de cœur, il se peut qu'il accepte, et dans ce cas, il sert la messe poliment. Il y a deux choses dont il est le tantale, et qu'il désire toujours sans y atteindre, jamais. Renverser le gouvernement et faire recoudre son pantalon. Le gamin à l'état parfait possède tous les sergents de ville de Paris et sait toujours, lorsqu'il en rencontre un, mettre le nom sous la figure. Il les dénombre sur le bout du doigt, il étudie leurs mœurs et il a sur chacun des notes spéciales. Il lit à livre ouvert dans les âmes de la police. Il vous dira couramment et sans broncher « Un tel est traître, un tel est très méchant, un tel est grand, un tel est ridicule. » Tous ces mots, traître, méchant, grand, ridicule, ont dans sa bouche une acception particulière. Celui-ci s'imagine que le Pont-Neuf est à lui et empêche le monde de se promener sur la corniche en dehors des parapets. Celui-là a la manie de tirer les oreilles aux personnes, etc., etc. Chapitre 9. La vieille âme de la Gaule. Il y avait de cet enfant-là dans Poquelin, fils des Halles. Il y en avait dans Beaumarchais. La gaminerie est une nuance de l'esprit gaulois. Mêlée au bon sens, elle lui ajoute parfois de la force, comme l'alcool au vin. Quelquefois, elle est défaut. Homère rabâche, soit. On pourrait dire que Voltaire gamine. Camille Desmoulins était faubourien. Championnet, qui brutalisait les miracles, était sorti du pavé de Paris. Il avait, tout petit, inondé les portiques de Saint-Jean de Beauvais et de Saint-Étienne-du-Mont. Il avait assez tutoyé la chasse de Sainte-Geneviève pour donner des ordres à la fiole de Saint-Janvier. Le gamin de Paris est respectueux, ironique et insolent. Il a de vilaines dents parce qu'il est mal nourri et que son estomac souffre, et de beaux yeux parce qu'il a de l'esprit. Jéhovah présent, il sauterait à cloche-pied les marches du paradis. Il est fort à la savate. Toutes les croissances lui sont possibles. Il joue dans le ruisseau et se redresse par l'émeute. Son effronterie persiste devant la mitraille. C'était un polisson, c'est un héros. Ainsi que le petit ébain, il secoue la peau du lion. Le tambour Barra était un gamin de Paris. Il crie « En avant !» comme le cheval de l'écriture dit « Va !» et en une minute, il passe du marmot au géant. Cet enfant du Bourbier est aussi l'enfant de l'idéal. Mesurez cette envergure qui va de Molière à Barra. Somme toute, et pour tout résumer d'un mot, le gamin est un être qui s'amuse parce qu'il est malheureux. Chapitre 10. Ecce Paris, ecce homo. Pour tout résumer encore, le gamin de Paris, aujourd'hui, comme autrefois le grey coulouse de Rome, c'est le peuple enfant ayant au front la ride du monde vieux. Le gamin est une grâce pour la nation et en même temps une maladie. Maladie qu'il faut guérir comment? Par la lumière. La lumière assainit, la lumière allume. Toutes les généreuses irradiations sociales sortent de la science, des lettres, des arts, de l'enseignement. Faites des hommes, faites des hommes, éclairez-les pour qu'ils vous échauffent. Tôt ou tard, la splendide question de l'instruction universelle se posera avec l'irrésistible autorité du vrai absolu. Et alors, ceux qui gouverneront sous la surveillance de l'idée française auront à faire ce choix, les enfants de la France ou les gamins de Paris, des flammes dans la lumière ou des feux follets dans les ténèbres. Le gamin exprime Paris et Paris exprime le monde. Car Paris est un total. Paris est le plafond du genre humain. Toute cette prodigieuse ville est un raccourci des mœurs mortes et des mœurs vivantes. Qui voit Paris croit voir le dessous de toute l'histoire, avec du ciel et des constellations dans les intervalles. Paris a un Capitole, l'hôtel de ville, un Parthénon, Notre-Dame, un Mont Aventin, le faubourg Saint-Antoine, un Asinarium, la Sorbonne, un Panthéon, le Panthéon, une voie sacrée, le boulevard des Italiens, une tour des vents, l'opinion. Et il remplace l'hégémonie par le ridicule. Son majot s'appelle le Faro, son transtévérin s'appelle le Faubourien, son hamal s'appelle le Fort de la Halle, son lazzarone s'appelle la Pègre, son cockney s'appelle le Gandin. Tout ce qui est ailleurs est à Paris. La poissarde de Dumarsais peut donner la réplique à la vendeuse d'herbes d'Euripide. Le discobole Véjanus revit dans le danseur de cordes Forioso. Terra Pontigonus Miles prendrait bras dessus, bras dessous, le grenadier va de bon cœur. Damasip, le brocanteur, serait heureux chez les marchands de bric-à-brac. Vincennes empoignerait Socrate, tout comme l'Agora coffrerait Diderot. Grimaud de la Reynière a découvert le rosbif au suif, comme Curtulus avait inventé le hérisson rôti. Nous voyons reparaître, sous le ballon de l'arc de l'étoile, le trapèze qui est dans Plaute. Le mangeur d'épées du Pécil, rencontré par Apulée, est à valeur de sabre sur le pont neuf. Le neveu de Rameau et Curculion, le parasite, font la paire. Ergasile se ferait présenter chez Cambacérès par des Grefeuilles. Les quatre muscadins de Rome, Alcésimarcus, Phaedromus, Diabolus et Argéripe, descendent de la courtille dans la chaise de poste de la battue. Olugel ne s'arrêtait pas plus longtemps devant Congriot que Charles Nodier devant Polichinelle. Marton n'est pas une tigresse, mais Pardalisca n'était point un dragon. Pantolabus le loustique blague au café anglais nommant Anus le viveur. Hermogène est ténor aux Champs-Élysées, et autour de lui, Thrasius le gueux, vêtu en bobèche, fait la quête. L'important qui vous arrête aux Tuileries par le bouton de votre habit vous fait répéter après 2000 ans l'apostrophe de Thesprion. Quis prosperantem me prehendit palio. Le vin de Suresne parodie le vin d'Albe. Le rouge bord de Désaugiers fait équilibre à la grande coupe de Balastron. Le Père Lachaise exhale sous les pluies nocturnes les mêmes lueurs que les Esquilies. Et la fosse du pauvre, achetée pour 5 ans, vaut la bière de louage de l'esclave. Cherchez quelque chose que Paris n'est pas. La cuve de Trophonius ne contient rien qui ne soit dans le baquet de Mesmer. Ergaphilas ressuscite dans Galiostro. Le brahmine Vasafanta s'incarne dans le comte de Saint-Germain. Le cimetière de Saint-Médard fait de tout aussi bons miracles que la mosquée Oumoumié de Damas. Paris a un Ésope qui est Mailleux et une Canidie qui est Mademoiselle Lenormand. Il s'effare, comme Delphes, aux réalités fulgurantes de la vision. Il fait tourner les tables comme Dodone les trépieds. Il met la grisette sur le trône comme Rome y met la courtisane. Et somme toute, si Louis XV est pire que Claude, Madame du Barry vaut mieux que Messaline. Paris combine dans un type inouï qui a vécu et que nous avons coudoyé. La nudité grecque, l'ulcère hébraïque et le colibé gascon. Il mêle Diogène, Job et Paillasse, habille un spectre de vieux numéros du Constitutionnel et fait Chodruc Duclos. Bien que Plutarque dise « Le tyran n'en vieillit guère », Rome, sous Sylla, comme sous Domitien, se résignait et mettait volontiers de l'eau dans son vin. Le Tibre était un laité, s'il faut en croire l'éloge un peu doctrinaire qu'en faisait Varus Vibriscus. Contra Gracchos Tiberim Abemus, Bibere Tiberim, Idest Seditionem Oblivisci. Paris boit 1 million de litres d'eau par jour, mais cela ne l'empêche pas, dans l'occasion, de battre la générale et de sonner le tocsin. À cela près, Paris est bon enfant. Il accepte royalement tout. Il n'est pas difficile, en fait, de Vénus. Sa calipige est autant tote. Pourvu qu'il rit, il amnistie. La laideur l'égaye, la difformité le désopile, le vice le distrait. Soyez drôle, et vous pourrez être un drôle. L'hypocrisie même, ce cynisme suprême, ne le révolte pas. Il est si littéraire qu'il ne se bouge pas le nez devant Basile, et il ne se scandalise pas plus de la prière de Tartuffe qu'Horace ne s'effarouche du hoquet de Priam. Aucun trait de la face universelle ne manque au profil de Paris. Le bal m'habille n'est pas la danse polynienne du Janicule, mais la revendeuse à la toilette y couve des yeux la lorette exactement comme l'entremetteuse Tafila guettait la vierge Planésium. La barrière du combat n'est pas un colisée, mais on y est féroce comme si César regardait. L'hôtesse syrienne a plus de grâce que la mère Sagée. Mais si Virgile hantait le cabaret romain, David d'Angers, Balzac et Charlet se sont attablés à la gargote parisienne. Paris règne. Les génies y flamboient. Les queues rouges y prospèrent. Adonaïe passe sur son char aux 12 roues de tonnerre et d'éclairs. Silène y fait son entrée sur sa bourrique. Silène, lisez Raponeau. Paris est synonyme de cosmos. Paris est Athènes, Rome, Sybaris, Jérusalem, Pantin. Toutes les civilisations y sont en abrégé. Toutes les barbaries aussi. Paris serait bien fâché de n'avoir pas une guillotine. Un peu de place de grève est bon. Que serait toute cette fête éternelle sans cet assaisonnement? Nos lois y ont sagement pourvu, et grâce à elles, se couperaient ces gouttes sur ce mardi gras. Chapitre 11. Railler, régner. De limite à Paris, point. Aucune ville n'a eu cette domination qui bafoue parfois ce qu'elle subjugue. « Vous plaire, ô Athéniens !» s'écriait Alexandre. Paris fait plus que la loi, il fait la mode. Paris fait plus que la mode, il fait la routine. Paris peut être bête, si bon lui semble. Il se donne quelquefois ce luxe. Alors, l'univers est bête avec lui. Puis Paris se réveille, se frotte les yeux, dit « Suis-je stupide ?» et éclate de rire à la face du genre humain. Quelle merveille qu'une telle ville! Chose étrange que ce grandiose et ce burlesque fassent bon voisinage, que toute cette majesté ne soit pas dérangée par toute cette parodie, et que la même bouche puisse souffler aujourd'hui dans le clairon du jugement dernier et demain dans la flûte à l'oignon. Paris a une jovialité souveraine. Sa gaieté est de la foudre, et sa farce tient un sceptre. Son ouragan sort parfois d'une grimace. Ses explosions, ses journées, ses chefs-d'œuvre, ses prodiges, ses épopées vont au bout de l'univers. Et ses coqs à l'âne aussi. Son rire est une bouche de volcan qui éclabousse toute la terre. Ses lazzis sont des flamèches. Il impose au peuple ses caricatures aussi bien que son idéal. Les plus hauts monuments de la civilisation humaine acceptent ses ironies et prêtent leur éternité à ses polissonneries. Il est superbe. Il a un prodigieux 14 juillet qui délivre le globe. Il fait faire le serment du jeu de paume à toutes les nations. Sa nuit du 4 août dissout en 3 heures 1000 ans de féodalité. Il fait de sa logique le muscle de la volonté unanime. Il se multiplie sous toutes les formes du sublime. Il emplit de sa lueur Washington, Kosciusko, Bolivar, Bozzaris, Riego, Bem, Manin, Lopez, John Brown, Garibaldi. Il est partout où l'avenir s'allume. À Boston en 1779, à l'île de Léon en 1820, à Pêche en 1848, à Palerme en 1860. Il chuchote le puissant mot d'ordre « liberté » à l'oreille des abolitionnistes américains groupés au bac de Harper's Ferry et à l'oreille des patriotes d'Ancône assemblés dans l'ombre aux archis devant l'auberge Gozzi au bord de la mer. Il crée Canary, il crée Quiroga, il crée Pisacane. Il rayonne le grand sur la terre. C'est en allant où son souffle les pousse que Byron meurt à Missolonghi et que Mazet meurt à Barcelone. Il est tribune sous les pieds de Mirabeau et cratère sous les pieds de Robespierre. Ses livres, son théâtre, son art, sa science, sa littérature, sa philosophie sont les manuels du genre humain. Il a Pascal, Régnier, Corneille, Descartes, Jean-Jacques, Voltaire pour toutes les minutes, Molière pour tous les siècles. Il fait parler sa langue à la bouche universelle, et cette langue devient le verbe. Il construit dans tous les esprits l'idée de progrès. Les dogmes libérateurs qu'il forge sont pour les générations des épées de chevet. Et c'est avec l'âme de ses penseurs et de ses poètes que sont faits depuis 1789 tous les héros de tous les peuples. Cela ne l'empêche pas de gaminer, et ce génie énorme qu'on appelle Paris, tout en transfigurant le monde par sa lumière, charbonne le nez de Bouginier au mur du temple de Thésée et écrit « Crédeville voleur » sur les pyramides. Paris montre toujours les dents quand il ne gronde pas. Il rit. Tel est ce Paris. Les fumées de ses toits sont les idées de l'univers. Tas de boue et de pierre, si l'on veut, mais par-dessus tout, être moral. Il est plus que grand, il est immense. Pourquoi ? Parce qu'il ose. Oser, le progrès est à ce prix. Toutes les conquêtes sublimes sont plus ou moins des prix de hardiesse. Pour que la révolution soit, il ne suffit pas que Montesquieu la pressente, que Diderot la prêche, que Beaumarchais l'annonce, que Condorcet la calcule, qu'Arouet la prépare, que Rousseau la prémédite. Il faut que Danton l'ose. Le cri « Audace !» est un fiat luxe. Il faut, pour la marche en avant du genre humain, qu'il y ait sur les sommets en permanence de fières leçons de courage. Les témérités éblouissent l'histoire et sont une des grandes clartés de l'homme. L'aurore ose quand elle se lève. Tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre. Tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Le même éclair formidable va de la torche de Prométhée au brûle-gueule de Cambronne. Chapitre 12. L'avenir latent dans le peuple. Quant au peuple parisien, même homme fait, il est toujours le gamin. Peindre l'enfant, c'est peindre la ville. Et c'est pour cela que nous avons étudié cet aigle dans ce moineau franc. C'est surtout dans les faubourgs, insistons-y, que la race parisienne apparaît. Là est le pur sang. Là est la vraie physionomie. Là, ce peuple travaille et souffre. Et la souffrance et le travail sont les deux figures de l'homme. Il y a là des quantités profondes d'êtres inconnus où fourmillent les types les plus étranges, depuis le déchargeur de la râpée jusqu'à l'écarisseur de Montfaucon. « Fex urbis !» s'écrie Cicéron. « Mob !» ajoute Burke indigné. « Tourbe, multitude, populace !» Ces mots-là sont vite dits. Mais soit, qu'importe. Qu'est-ce que cela fait qu'ils aillent pieds nus? Ils ne savent pas lire. Tant pis. Les abandonnerez-vous pour cela? Leur ferez-vous de leur détresse une malédiction? La lumière ne peut-elle pénétrer ces masses? Revenons à ce cri. Lumière! Et obstinons-nous-y. Lumière! Lumière! Qui sait si ces opacités ne deviendront pas transparentes? Les révolutions ne sont-elles pas des transfigurations? Allez, philosophes, enseignez, éclairez, allumez, pensez haut, parlez haut, courez joyeux au grand soleil, fraternisez avec les places publiques, annoncez les bonnes nouvelles, prodiguez les alphabets, proclamez les droits, chantez les Marseillaises, semez les enthousiasmes, arrachez des branches vertes aux chênes, faites de l'idée un tourbillon. Cette foule peut être sublime. Sachons nous servir de ce vaste embrasement des principes et des vertus qui pétillent, éclatent et frissonnent à de certaines heures. Ces pieds nus, ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres peuvent être employés à la conquête de l'idéal. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité. Ce vil sable que vous foulez aux pieds, qu'on le jette dans la fournaise, qu'il y fonde et qu'il y bouillonne, il deviendra cristal splendide. Et c'est grâce à lui que Galilée et Newton découvriront les astres. Chapitre 13. Le petit Gavroche. 8 ou 9 ans environ après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple et dans les régions du Château d'Eau un petit garçon de 11 à 12 ans qui eut assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut, si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'eût pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une camisole de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère. Mais son père ne songeait pas à lui, et sa mère ne l'aimait point. C'était un de ces enfants dignes de pitié entre tous, qui ont père et mère, et qui sont orphelins. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il avait tout bonnement pris sa volée. C'était un garçon bruyant, blême, leste, éveillé, goguenard, à l'air vivace et maladif. Il allait, venait, chantait, jouait à la faïousse, grattait les ruisseaux, volait un peu, mais comme les chats et les paresseux, gaiement, riait quand on l'appelait galopin, se fâchait quand on l'appelait voyou. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour. Mais il était joyeux parce qu'il était libre. Quand ces pauvres êtres sont hommes, presque toujours la meule de l'ordre social les rencontre et les broie. Mais tant qu'ils sont enfants, ils échappent étant petits. le moindre trou les sauve. Pourtant, si abandonné que fût cet enfant, il arrivait parfois, tous les 2 ou 3 mois, qu'il disait « Tiens, je vais voir maman ». Alors il quittait le boulevard, le cirque, la porte Saint-Martin, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la Salpêtrière et arrivait où ? Précisément à ce double numéro 50-52 que le lecteur connaît, à la Masure Gorbeau. À cette époque, la Masure 50-52, habituellement déserte et éternellement décorée de l'écriteau « chambre à louer », se trouvait, chose rare, habitée par plusieurs individus, qui, du reste, comme cela est toujours à Paris, n'avaient aucun lien ni aucun rapport entre eux. Tous appartenaient à cette classe indigente qui commence à partir du dernier petit bourgeois gêné et qui se prolonge de misère en misère dans les bas-fonds de la société, jusqu'à ces 2 êtres auxquels toutes les choses matérielles de la civilisation viennent aboutir. Les gouttiers qui balavent la boue et le chiffonnier qui ramasse les guenilles. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par une toute pareille. Je ne sais quel philosophe a dit « On ne manque jamais de vieilles femmes ». Cette nouvelle vieille s'appelait Madame Burgon et n'avait rien de remarquable dans sa vie qu'une dynastie de 3 perroquets, lesquels avaient successivement régné sur son âme. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de 4 personnes, le père, la mère et 2 filles déjà assez grandes, tous les 4 logés dans le même galetas, une de ces cellules dont nous avons déjà parlé. Cette famille n'offrait au premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Quelque temps après son emménagement, qui avait singulièrement ressemblé, pour emprunter l'expression mémorable de la principale locataire, à l'entrée de rien du tout, ce Jondrette avait dit à cette femme, qui, comme sa devancière, était en même temps portière et balayait l'escalier, « Mère une telle, si quelqu'un venait par hasard demander un Polonais ou un Italien, ou peut-être un Espagnol, ce serait moi. » Cette famille était la famille du joyeux petit Vanupied. Il y arrivait et il trouvait la pauvreté, la détresse et, ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre et le froid dans les cœurs. Quand il entrait, on lui demandait « D'où viens-tu ? » Il répondait « De la rue. » Quand il s'en allait, on lui demandait « Où vas-tu ? » Il répondait « Dans la rue. » Sa mère lui disait « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Cet enfant vivait dans cette absence d'affection comme ces herbes pâles qui viennent dans les caves. Il ne souffrait pas d'être ainsi et n'en voulait à personne. Il ne savait pas au juste comment devaient être un père et une mère. Du reste, sa mère aimait ses sœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche ? Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. La chambre que les Jondrette habitaient dans la Masure Gorbeau était la dernière au bout du corridor. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait Monsieur Marius. Disons ce que c'était que Monsieur Marius.